Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture, en tout cas du lundi au vendredi, votre magazine international. Et bonne nouvelle, puisque les résultats médiamétriques sont tombés ce matin et qu'on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, donc on vous en remercie. Ce matin, l'émission a été préparée par Hélène François, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par Jean-Guy Lermèche. On continue notre semaine consacrée au régionalisme, à l'indépendantisme, qui est in, qui est out, c'est le titre de notre série cette semaine. Lundi, on parlait de la crise catalane, mardi, on s'interrogeait sur les fractures entre les différentes nations du Royaume-Uni. Aujourd'hui, cap sur la Nouvelle-Calédonie, où la date du prochain référendum sur l'indépendance du Caillou vient d'être fixée. Nouvelle-Calédonie, le choix des petits pas, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
La seule porte de sortie pour nous maintenant, c'est l'accession du pays à son indépendance. Point barre.
Les hasards de l'histoire, du monde, nous ont conduits à nous retrouver ensemble, peuples autochtones et peuples d'ailleurs, sur cet archipel. Et ensemble, nous avons construit un pays.
En ce jour, le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, l'esprit de dialogue que plus rien n'entamera.
Ici, c'est Kanakia.
Cette terre n'est pas
Joie.
À vendre. Désolé, cette terre n'est pas à vendre.
Ici, c'est le pays Kanak. Quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, ici, c'est la terre du peuple Kanak.
Ce n'est pas une date simple à fixer, avait prévenu le Premier ministre Édouard Philippe. La décision a pourtant fini par tomber. Le deuxième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 6 septembre 2020, comme le prévoit le processus de décolonisation de l'accord de Nouméa signé en 1998. Il y a un an, le 4 novembre 2018, les partisans au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France avaient remporté le premier référendum avec 56,7% des suffrages. Un résultat relativement serré qui montre que le mouvement indépendantiste kanak est toujours bel et bien présent malgré les progrès sociaux et économiques des 30 dernières années. Après les affrontements violents entre loyalistes et indépendantistes dans les années 80, appelés pudiquement les événements, les accords de Matignon en 88 puis ceux de Nouméa en 98 avaient pour ambition de réconcilier les communautés de Nouvelle-Calédonie, de bâtir un destin commun en reconnaissant l'héritage douloureux de la colonisation tout en redonnant aux Kanak, le peuple autochtone, leur place dans la société. Alors quel bilan peut-on tirer des politiques menées depuis 20-30 ans? Comment se profilent les prochaines consultations? Où en est le dialogue entre indépendantistes et loyalistes? Cette stratégie des petits pas permettra-t-elle à la Nouvelle-Calédonie de choisir souverainement son destin en évitant le retour de la violence? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Alban Bensa. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'EHESS. Vous rentrez tout juste, c'était il y a deux semaines, d'un long séjour de 2 mois quasiment en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez des nouvelles toutes fraîches du Caillou. Vous allez pouvoir nous les donner. Jean-Michel Sourisseau est avec nous en duplex de Montpellier. Bonjour Jean-Michel Sourisseau.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, chercheur au CIRAD et vous aussi, vous avez eu l'occasion d'aller il y a assez peu de temps du côté de la Nouvelle-Calédonie. On pourra notamment évoquer la question de l'agriculture qui est évidemment au cœur des préoccupations kanak. Je vais commencer avec vous, Jean-Michel Sourisseau, sur la date du prochain référendum. A priori, on se dit que les dates, c'est pas très important, mais dans ce dossier calédonien, on se rend compte que tout est important, tout est politique. Jusque le choix même de ce choix de la date qui a fait l'objet de tractations très importantes entre la formation loyaliste, l'avenir en confiance et le Front de libération nationale kanak et socialiste. Les loyalistes, eux, voulaient qu'il ait lieu le plus vite possible et défendaient l'idée d'une consultation en juillet 2020. Et les indépendantistes, eux, du FLNKS, voulaient repousser au plus tard cette date et ils visaient novembre 2020. Finalement, on a opté pour septembre 2020. C'est-à-dire exactement au milieu. Ça illustre bien cette position d'équilibre, voire même d'équilibriste, que souhaite avoir l'État français dans cette affaire, Jean-Michel Sourisseau.
Ah ben oui, ça illustre exactement cette posture-là et le rôle d'arbitre que l'État entend jouer. Il essaie effectivement de se positionner au milieu et souvent c'est ce qui se passe. Et tout est compliqué effectivement puisque les tensions restent fortes, les camps restent sur des positions très fermes et du coup la recherche du compromis est tout le temps importante. Mmh. Là, c'était compliqué aussi pour différentes raisons. C'est vrai que les indépendantistes veulent pousser au maximum les délais pour pouvoir faire mettre en œuvre l'accord de Nouméa jusqu'à son terme. Les loyalistes veulent avancer la chose et il y avait un problème aussi de télescopage avec les échéances nationales où le gouvernement voulait éviter aussi qu'il y ait ce télescopage rester quand même le dossier calédonien en Calédonie.
Ouais, il y avait des enjeux plus globaux qui dépassaient évidemment la seule Nouvelle-Calédonie. Alban Bensa, le mois dernier, vous avez co-signé une tribune dans Libération dans laquelle vous présentiez évidemment les enjeux purement locaux, mais aussi les enjeux pour l'État français. La France doit réussir sa première décolonisation sans violence, disiez-vous dans cette tribune. C'est ça aussi l'enjeu, trouver le chemin d'un processus de décolonisation pacifiste.
Oui, absolument, parce que jusqu'à présent, les décolonisations dans l'espace français, colonial français, se sont plutôt mal passées, et très mal passées, et donc il faudrait qu'avec la Nouvelle-Calédonie, on puisse arriver à décoloniser sans affrontement, nouveaux affrontements, et donc ça suppose d'avoir un peu d'imagination pour trouver une sorte de solution médiane dans laquelle tous les Calédoniens aient le sentiment de se retrouver, mais dans laquelle la rupture avec la France soit aussi manifeste. Mmh. Donc c'est cet entre-deux qui est difficile à construire, mais qui est en cours.
Est-ce qu'il vous semble justement que cet entre-deux a été trouvé et que la méthode est bonne? Parce qu'il y a deux manières de voir ce processus d'autodétermination qui est en cours. D'un côté, on peut penser que c'est assez raisonnable finalement d'avancer à petits pas, on a choisi ce titre pour la Nouvelle-Calédonie, et d'avoir donc un processus en plusieurs étapes qui permet de ne pas complètement fermer la porte à l'indépendance d'un seul coup. Et puis de l'autre côté, on peut aussi se dire que le fait de laisser précisément cette possibilité empêche aussi l'archipel d'avancer et peut-être même exacerbe les tensions entre loyalistes et indépendantistes. Quel regard vous portez, vous, sur cette méthode? Est-ce qu'il vous semble que c'est la bonne méthode pour empêcher le retour de la violence, qui est un enjeu principal?
Je pense qu'il était inévitable de mettre en place un référendum. Parce que les décolonisations doivent passer par un référendum d'autodétermination.
Mais là, on en a trois.
Oui, on en a trois. Alors, on en a trois. Le législateur de l'époque a pensé certainement que la réflexion devait mûrir pour que toutes les composantes de la société calédonienne puissent se retrouver au moins sur un schéma minimum commun. Alors, Le référendum, le prochain, comme le précédent d'ailleurs, présente l'avantage de remettre les choses à plat, c'est-à-dire voir, et c'est le thème d'ailleurs du livre de Jean-Michel Sourisseau qui l'a coordonné, voir où nous en sommes.
La Nouvelle-Calédonie face à son destin, j'ai pas donné le titre qui est paru chez Cartala.
Voilà, et donc pour mesurer l'état des lieux, faire un état des lieux de la Nouvelle-Calédonie, rien de tel qu'un référendum. Qu'est-ce qui a avancé? Quels sont les points qui restent encore non maîtrisés ou qui font l'objet d'affrontements? Et est-ce qu'on peut engager un dialogue pour aller au-delà du référendum?
Alors voyons justement, Jean-Michel Sourisseau, comment les choses mûrissent, pour reprendre l'expression d'Alban Bensa. Lors du premier référendum, les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France l'avaient emporté à 56,7% des suffrages. Ce résultat, il avait plutôt été vu comme une victoire des indépendantistes, au sens où les sondages indiquaient une victoire plus large aux loyalistes. Je me souviens, à l'époque, les sondages disaient entre 60 et 70% pour les loyalistes. Là, 56,7% seulement. Comment interpréter le résultat de ce premier référendum et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que il progresse, ce front indépendantiste, d'ici le second référendum, Jean-Michel Sourisseau?
Alors, je pense qu'il nous manque quand même une analyse vraiment fine des résultats de ce scrutin, qui est assez étonnant effectivement. Même dans la presse nationale, les loyalistes annonçaient même déjà 70% avant même le référendum, et on était assez surpris de ce résultat. Il me semble quand même que ce qui est clair, c'est que le premier résultat, c'est que le vote indépendantiste n'a pas reculé depuis les 30 ans, depuis les accords de Matignon, et surtout que les indépendantistes se sont mobilisés très fortement. On avait pensé qu'il y aurait beaucoup plus d'abstention en fait, et que les jeunes, par exemple les jeunes Kanaks, seraient plus, si marquaient leur opposition en fait au processus d'ancrage à la France, ne se seraient pas déplacés. Or, ils se sont plutôt déplacés et ils ont voté pour l'indépendance. Donc ça légitime en fait la posture des leaders indépendantistes et la campagne qu'ils avaient menée, qu'on jugeait timide mais qui finalement s'est avérée assez bonne. Et de l'autre côté, il semble aussi que les loyalistes soient peut-être moins mobilisés, pensant que c'était déjà acquis, et on est dans cette logique là. Ce qui est important quand même à montrer, c'est que ce que ça dit, c'est que le pays reste extrêmement clivé, parce que géographiquement et socialement les écarts par rapport à ce référendum sont quand même très très marqués.
C'est-à-dire
en gros les communes qui sont loyalistes, elles sont loyalistes à 80-90%, les communes qui sont indépendantistes, elles sont indépendantistes à 80-90%. Donc on a vraiment encore ce clivage qui reste très très fort autour du vote. Et c'est là, à mon avis, le risque aussi de, je pense que ce référendum était nécessaire et donner un horizon, donner une étape, mais il me semble qu'il faut pas, enfin, il peut potentiellement cristalliser les tensions, et ce qui est très important dans le processus, c'est d'alterner ce référendum qui fait un peu date butoir et qui peut être cristallisant, mais en même temps la conduite dans le long terme d'une évolution institutionnelle qui, elle, se fait un peu moins loin des lumières des médias, etc., et qui, elle, sur 30 ans, s'est quand même fait et a produit, on pourra en discuter, j'imagine, des résultats globalement vraiment potentiellement très intéressants.
Oui, on va évidemment en discuter, regarder ce qu'a été le développement de l'île ces dernières années pour comprendre effectivement ce qui a été bon et ce qui a été peut-être moins bon, en particulier en termes d'inégalités qui sont toujours bel et bien là. Mais Alban Bensa, sur ce que dit Jean-Michel Sourisseau à propos de cette polarisation très forte avec une géographie, une sociologie très particulière, très polarisée sur cet enjeu de l'indépendance, c'est vrai que l'année dernière, avant le référendum, il y avait une crainte très forte de la part des mouvements indépendantistes que la violence n'éclate, et donc on était extrêmement attentif à bien montrer qu'on était dans une démarche pacifiste et qu'il fallait absolument éviter le retour de la violence. Il n'empêche que cette polarisation politique et géographique est bel et bien là. Est-ce qu'elle est là au point qu'il faut craindre à nouveau une fièvre, un accès de violence sur le Caillou, ou est-ce qu'il vous semble que précisément les choses sont plutôt pacifiées, et que par ailleurs le fait que le premier référendum se soit bien déroulé montre que les choses sont globalement pacifiées, Alban Bensa?
Oui, alors pour l'analyse des résultats du référendum, je pense qu'il y a eu une erreur qui a été faite par certains observateurs, sociologues, etc., c'est d'imaginer qu'il y avait une classe moyenne kanak qui allait décrocher de l'idéal d'indépendance. Et parce que bon, il y a eu des formes de promotion, d'enrichissement, d'amélioration des conditions d'embauche, etc., qui ont fait que beaucoup de Kanaks se sont trouvés, d'indépendantistes et aussi d'Européens un peu favorisés, se sont trouvés quand même portés par les 30 années de développement qui ont été réalisées en Nouvelle-Calédonie. Mais au moment du vote, eh bien, c'est le être Kanak l'a emporté sur être plus ou moins favorisé ou pas. C'est-à-dire que le vote identitaire s'est imposé comme une nécessité absolue. Là-dessus, ça ne bougera pas et ça tend même à s'étendre. Et pour prévenir un blocage complet, depuis Jean-Marie Tjimbaou, les indépendantistes pratiquent une politique de la main tendue, venez venez discuter, etc. Et en province nord et aussi sur Nouméa, il y a tout un ensemble d'initiatives d'ouverture pour que dialoguent les autres communautés avec les indépendantistes, et notamment en province nord, avec des chefs d'entreprise, avec des enseignants, avec toutes les composantes de la société. Il y a actuellement un énorme travail de concertation avec la communauté walisienne aussi, dont on parlera à l'heure. Et il y a un énorme travail de concertation, parce que si vous voulez, l'indépendance n'est gagnable qu'avec les autres. Il peut pas y avoir une indépendance kanak toute seule, isolée. On va tout droit à l'échec et peut-être à des affrontements. Et ça, les indépendantistes en poste, aux affaires, en ont parfaitement conscience. Donc il faut mener une politique d'ouverture, continuer cette politique d'ouverture qui était celle de Tjimbaou, qui est reprise aujourd'hui par les indépendantistes des deux grands partis indépendantistes, l'UC et l'UNI. Et c'est là que l'enjeu véritablement se
même si
se développe.
Cette politique d'ouverture elle a ses limites aujourd'hui, elle avait déjà ses limites hier. Rappelons quand même pour les auditeurs qui connaissent pas forcément l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibao, il a été assassiné en 1989 par un indépendantiste précisément qui n'avait pas accepté qu'on signe les accords de Matignon. Donc on va voir une chose très importante, c'est que ce front indépendantiste en réalité est fragmenté. Il l'était il y a 30 ans, il l'est toujours aujourd'hui. Mais peut-être un tout dernier point, on va aborder ce point-là dans un instant, mais il y a un tout dernier point, Jean-Michel Sourisseau, sur lequel je voudrais vous entendre. On disait que finalement le résultat du premier référendum, oui, était plus serré que ce qu'on attendait. C'est vrai, 56%. Finalement, on n'est pas loin d'une égalité parfaite. Finalement, Jean-Michel Sourisseau, qu'en est-il de la démographie? Comment va-t-elle jouer sur les futurs référendums? Est-ce qu'elle est plutôt favorable aux Kanaks ou est-ce qu'elle est plutôt favorable aux Caldoches, c'est-à-dire ces descendants des colons européens?
Bah, a priori, ce qu'on peut prévoir quand même, c'est qu'on est, la démographie va pas changer fondamentalement la donne, quoi. C'est pour ça que il y a beaucoup de discussions autour des listes électorales et de qui a droit de voter, et puis sur l'inscription automatique ou pas pour favoriser, parce que là, les marges de manœuvre sont finalement assez faibles, quoi. Et malgré une démographie un peu plus forte dans la communauté kanak, ça peut pas s'inverser aussi rapidement. Donc de fait, et c'est ce qu'Alban Mensa disait, c'est que les Kanaks seuls, dans la démographie actuelle, avec l'histoire telle qu'elle a été, et très, très douloureuse, ne peuvent pas numériquement avoir la majorité tout seul. Donc du coup, il faut gagner sur les autres côtés. La première étape, c'était quand même de s'assurer que tout le monde dans la société Kanak, ou en tout cas le maximum de Kanaks, il y a des Kanaks loyalistes aussi, mais que la majorité des indépendantistes restent. Et ce premier référendum a montré qu'effectivement, il y avait une base solide et que jeunes comme moins jeunes, et Alban Mensa a raison, les classes moyennes aussi, qu'on pensait pouvoir être attirées vers un ancrage vers la France plus fort, sont restées. Donc le vote indépendantiste a un socle très très fort. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher d'autres appuis et des votes à l'extérieur de la communauté et du camp indépendantiste? C'est tout le pari en fait des deux prochains référendums, parce que on voit mal qu'il n'y en ait qu'un, quoi. Voilà.
Le pari, en tout cas, semble être gagné s'agissant du congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque ce congrès a été remporté il y a quelques mois par l'une des figures du Front de Libération Kanak et Socialiste, qui est un rassemblement de plusieurs partis. Et à l'intérieur de ce rassemblement, il y a notamment l'Union Calédonienne. Et c'est précisément l'un de ses membres, qui s'appelle Roch Wamitan, qui a été élu en mai dernier à la tête du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez.
La majorité qui m'a porté à la présidence ce matin et d'une majorité océanienne. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et il est temps que les Océaniens, qui entretiennent des relations d'échange millénaires dans cette partie occidentale du Grand Océan Pacifique, mais qui ont été séparés par les frontières de la colonisation et artificiellement opposés, se retrouvent aujourd'hui autour des valeurs culturelles ancestrales et qu'ils puissent les partager avec toutes ces populations qui vivent ici dans ce pays océanien, leur pays d'adoption. Le temps est venu d'imprimer dans ce pays du Pacifique le sceau historique du marqueur océanien au niveau culturel, social, économique et pour un pays qui doit être à tous les niveaux le reflet de notre nous dans un destin commun en construction.
Voilà, on entendait à l'instant Roch Wamitan en mai dernier, juste après avoir été élu à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois, Alban Mensa, qu'un indépendantiste est élu à la tête du Congrès. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est le signe que finalement les rapports de force ont changé à l'intérieur de cette assemblée calédonienne et peut-être au-delà?
C'est-à-dire que aux élections pour le Congrès, les indépendantistes ont gagné un ou deux sièges, je me souviens plus très exactement. Donc ils sont en meilleure position. Et puis surtout, il y a eu un effet de surprise dans le résultat de ces élections, c'est que un groupe d'Océaniens d'origine wallisienne s'est imposé, a réussi à avoir trois élus dans le Congrès.
Le réveil océanien. Et ça il paraît que c'est un événement politique. Pourquoi?
C'est un événement politique parce que jusqu'à présent, les Wallisiens, les gens originaires des îles Wallis, qui sont plus nombreux en Nouvelle-Calédonie que aux îles Wallis d'ailleurs, s'étaient toujours ralliés aux loyalistes, quitte même à les soutenir dans leur activisme, voilà. Et donc, on avait l'impression qu'ils constituaient une sorte de garde rapprochée des loyalistes, notamment dans la province sud. Et ces gens, en fait, se sont rebiffés d'une certaine manière, ou se sont manifestés parce que ils étaient quand même considérés, bien que soutien des loyalistes, comme des citoyens de seconde zone par les loyalistes européens aux affaires. Et donc, suite à des échecs scolaires, à une relégation, et aussi il y a une très très forte dynamique culturelle chez les Wallisiens, faut pas l'ignorer, ils se sont mobilisés et ils ont réussi à océaniser, si vous voulez, le Congrès. Du coup, au moment du vote, eh bien, ils ont voté pour un Océanien qui est Roch Wamitant. Mais ils n'ont pas reproduit ce vote au moment de constitution du gouvernement.
On pourrait se dire que 3 sièges, c'est pas énorme, mais il y en a 54 dans Congrès. Donc, c'est quand même très important. Jean-Michel Sourisseau, à la fois sur cette victoire inédite de Roch Wamitant, qui est le premier indépendantiste élu à la tête du Congrès, et sur cette percée du réveil océanien qui a remporté 3 sièges.
Oui, ben c'est très très serré. Hein. Je veux dire, c'est que donc en gros, les indépendantistes, c'est 26 sièges au Congrès, c'est 25 pour les loyalistes clairs et 3 pour l'éveil océanien. Donc on est vraiment dans un équilibre. Mais moi, je tempérerai un petit peu le côté océanien, c'est-à-dire que l'éveil océanien a dit qu'il n'était ni indépendantiste ni loyaliste et qu'il voulait jouer la carte de la défense de leur collectivité, de leur communauté et de réparer un peu un vide. Politique là-dedans. Donc du coup, le Roch Wamitant joue très fortement sur le côté océanien et a raison. Et ça fait partie de la stratégie en fait de gagner sur la part traditionnellement loyaliste pour pouvoir inverser la tendance. Mais il n'est pas dit que l'éveil océanien s'engage à voter indépendantiste à chaque fois. Donc du coup, on est quand même dans une ça ouvre une possibilité nouvelle. Ça ouvre un champ dans les stratégies politiques et dans les équilibres politiques locaux qui est un peu nouveau, mais il est un peu tôt à mon avis pour dire que ça peut aussi inverser la tendance. Il n'est pas dit que sur les prochaines élections ça reste là.
On est dans une situation de majorité assez fluctuante en réalité. Ça dépend.
Oui, c'est la nouveauté un peu de cette dernière chose où il y a pour la première fois une force petite mais qui est là et qui peut faire basculer quoi du coup et ça c'est nouveau et ça redéplace aussi la discussion et ça met aussi en lumière le sur un plan économique et social le fait que effectivement on n'est pas que entre Kanak et non Kanak qu'il y a aussi toutes ces populations qui sont arrivées en Calédonie par des migrations économiques par des histoires assez longues et que là il y a peut-être sûrement aussi des choses à renouveler et dans la reconstruction d'une identité politique calédonienne globale.
Alban Bensa, encore un mot peut-être sur la dimension purement politique, et puis ensuite on va aborder les questions vraiment économiques, à la fois la question liée à l'agriculture et puis à l'industrie également.
Voilà, mais ce sera plutôt une remarque d'ordre anthropologique pour le coup.
Vous êtes anthropologue, on ne s'en fait pas.
C'est-à-dire que la montée en puissance du réveil océanien a océanisé, si vous voulez, la Nouvelle-Calédonie, a rappelé quelque chose qui a toujours été refusé par les loyalistes, c'est que la Nouvelle-Calédonie est d'abord une terre océanienne. Et Roch Wamitant s'est pas privé de s'engouffrer dans cette brèche. C'est en fait, on est dans un pays du Pacifique Sud, largement océanien, et l'entrée en politique visible des Wallisiens introduit en quelque sorte un sentiment de changement d'identité globale, c'est-à-dire que ce n'est pas la France qui peut définir et être le point de référence unique identitaire des Calédoniens, mais c'est l'Océanie en expansion. Et d'ailleurs, les indépendantistes avaient déjà joué cette carte depuis longtemps, s'associant au fer de lance et aux autres pays d'Océanie. Et je crois que là, il y a un basculement qui fait réfléchir. Et aujourd'hui, d'intenses discussions sont en cours entre la communauté wallisienne et les indépendantistes kanak.
Il faut aller vers les gens. Après, est-ce que ces gens-là, ils ont accès à la banque, aux emprunts? Est-ce que... Moi, je vois ici, quand vous descendez le col des Roussettes, vous avez des grandes plaines partout. Et ces gens-là, ils ne connaissent pas planter le maïs. Quand vous voyez les champs de caldoche, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Mais ça, c'est un problème politique. C'est-à-dire que nous, les politiciens kanak, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces gens, pour les motiver, pour leur faire comprendre que c'est nécessaire, que la terre aujourd'hui, elle doit participer au développement du territoire.
Voilà, on vient d'entendre à l'instant Georges Mandaoué, qui était autrefois indépendantiste radical et ancien ministre, et qui considère aujourd'hui que les Kanaks doivent être beaucoup plus ambitieux en matière économique, et notamment dans le domaine de l'agriculture. Extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur Arte en novembre 2018, Nouvelle-Calédonie, la terre en partage. C'est un documentaire de William Irigoyen. Jean-Michel Sourisseau, vous revenez justement, en tout cas vous étiez au printemps dernier, sur le terrain, dans les provinces nord. Vous avez regardé justement ce qu'il en est des évolutions en matière d'agriculture et plus largement de développement. Ce qu'on entend là dans ce témoignage, Jean-Michel Sourisseau, c'est aussi qu'il existe au fond une fracture visiblement à l'intérieur de la communauté kanak s'agissant de la représentation que l'on a de la terre et de son exploitation. C'est aussi ça qu'on entend dans ce témoignage, Jean-Michel Sourisseau.
Oui, enfin je ne sais pas si la rupture elle est dans le monde kanak, en fait, mais en tout cas, l'agriculture calédonienne est extrêmement duale, en fait, hein, avec une partie des exploitations agricoles qui sont plutôt non kanak, donc sur terre privée, et qui sont engagées, qui sont pas si nombreuses que ça, mais quand même, quoi, qui sont engagées sur des logiques économiques assez fortes, avec des filières assez structurées, très protégées d'ailleurs, hein, et très aidées par des subventions diverses, et donc qui participent avec c'est un pan des politiques économiques calédoniennes assez fortes sur l'agriculture. Et donc il y a cette partie du monde agricole qui est très très marchande, très tournée, voilà. Et le monde kanak est très peu présent dans ce monde-là. On peut compter vraiment par dizaines à peine, quoi, le nombre de kanaks qui sont vraiment engagés dans ces processus de modernisation.
Mais il est présent quand même. On n'a pas deux philosophies d'exploitation des terres totalement radicales, avec d'un côté les kanaks qui considéreraient que finalement le rapport à la terre est sacré et que il faut produire du taro et l'ilnam comme les ancêtres, et puis de l'autre les caldoches beaucoup plus ambitieux qui voudraient faire de l'exploitation intensif. C'est pas aussi simple que ça.
Bah, c'est pas aussi simple que ça, mais
même si globalement c'est ça.
Ce qui est sûr, globalement c'est ça quand même. Globalement c'est ça quand même. En proportion, en tout cas c'est ça quand même. Je pense qu'il y a quelques dizaines effectivement d'exploitants agricoles kana qui sont dans des filières marchandes très fortement engagées. Et en revanche, dans les enquêtes qu'on a pu faire, plus de 90% des ménages kanak résidents en tribu sont engagés dans une activité agricole, mais qui est une activité agricole plutôt tournée vers l'autoconsommation, vers le don, vers des valorisations non marchandes des productions sur des plus petites surfaces, mais avec un savoir-faire et un ancrage culturel et social extrêmement fort. Et cette agriculture-là, qui est par contre peu visible dans les politiques publiques et dans les grands équilibres économiques quand on fait le trait, elle est par contre déterminante pour la reproduction des ménages résidents en tribu. Et c'est ça qui est aussi un des paradoxes, quoi, de voir que nous, un des chiffres qu'on aime bien dire, c'est que quand on additionne tout ce qui est produit en termes de bananes, d'igname, de tubercules tropicaux, et qui ne passe pas par le marché, et qu'on essaye de lui mettre un prix, on obtient quasiment les mêmes montants que tout ce qui passe par les marchés, par le marché de Ducos, par les filières classiques. Donc on a une espèce d'invisibilité aussi de cette agriculture kanak, qui certes n'est pas marchande, mais qui par contre a un rôle quand même extrêmement fort.
Ouais, bien sûr.
Et pas simplement culturel, hein, c'est aussi alimentaire, et c'est social. Oui, ça tamponne très fortement les inégalités aussi.
Alban Bensa, l'une évidemment des revendications centrales des Kanaks, c'était de retrouver la jouissance des terres qui leur avaient été confisquées. Alors depuis de nombreuses années, il y a un travail qui est engagé justement pour leur redonner un accès à la terre. Il y a d'abord eu une réforme agraire à la fin des années 70. Ensuite, l'État a mis en place un mécanisme par lequel on prenait des terres au caldoche qu'on redistribuait à des familles kanak par l'intermédiaire d'une entité qu'on appelle l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Quel bilan global on peut faire, Alban Bensa, de cette politique de redistribution des terres? Est-ce qu'elle a permis effectivement un rééquilibrage des choses entre les deux communautés?
En partie, oui. Parce que je crois... Jean-Michel Sourisseau me précisera peut-être le chiffre, mais je crois qu'il y a 16% de terres en plus que les Kanaks ont récupéré à l'issue de ce travail de la DRAF, de cette agence, après les événements dans les années 90. Ça continue encore un petit peu, mais le système, c'est qu'il faut que les revendications sur les terres occupées par les anciens propriétaires européens européen soit unanime. Hein, mais si des revendications, si deux clans revendiquent la même terre, à ce moment-là, c'est bloqué et la DRAF continue à louer éventuellement cette terre aux Européens qui s'y trouvaient avant. Donc, il y a eu effectivement un redéploiement, on le constate, hein, avec des hectares et des hectares qui ont été récupérés, souvent sous forme d'agrandissement de réserve, ce qui a permis aux gens d'une réserve où ils étaient très confinés, très serrés, de se redéployer, par exemple en descendant vers l'embouchure de la vallée, et alors qu'ils étaient confinés dans le fond. Hein. Donc ça c'est sûr. La deuxième chose qui s'est passée, qui est l'objet de grandes discussions, c'est le statut c'est le foncier, si vous voulez. On a pour l'instant des terres coutumières, ce qui étaient les terres de réserve qu'on appelle maintenant les terres coutumières. Vous avez les terres privées, vous avez les terres communales et vous avez les terres d'État, du domaine de l'État. Donc ça fait quatre régimes fonciers différents. Et l'harmonisation de ces régimes est pas parfaite, parce que quand vous êtes en terre coutumière, si vous voulez construire en terre coutumière, les banques hésitent à vous garantir, parce que depuis Guilin et le 19e siècle, les terres coutumières sont considérées comme collectives, indivisibles, incessibles, et bon, voilà. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est ce que demandent les Kanaks. C'est pas nécessairement que tous les colons s'en aillent, parce qu'ils récupéraient beaucoup de terres et ce serait peut-être pas les forces suffisantes pour utiliser toutes ces terres. Je connais même des Kanaks qui ont rétrocédé des terres après les avoir reçues par la DRAF. Ils ont rétrocédé une partie à des propriétaires européens pour les... Mais c'est qu'il y ait un accord de circulation sur ces terres. C'est-à-dire que ces terres puissent être visitées, que les anciens sites d'habitat des Kanaks puissent être honorés, que on fasse baisser la pression entre terres coutumières et propriétés européennes. Et là-dessus, il y a un grand débat qui progresse.
Jean-Michel Sourisseau, sur cette question absolument centrale du rééquilibrage foncier entre Caldoche et Kanak et sur les différentes procédures qui ont été mises en place justement pour redistribuer ces terres et puis peut-être pour aller plus loin. D'ailleurs, vous avez peut-être des chiffres, Jean-Michel Sourisseau, à ce propos. Et puis peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, on pourrait se demander à qui a profité cette redistribution des terres à l'intérieur de la communauté Kanak. Je veux dire, est-ce que tous les Kanaks finalement en ont profité ou est-ce que il y a eu des choses qui ont aggravé d'une certaine manière les inégalités à l'intérieur même de la communauté Kanak, parce que on sait et on va l'aborder dans quelques instants que malheureusement si le développement de l'île a été très bonne ces dernières années, les inégalités ont persisté voire se sont aggravées. Donc cette question se pose aussi sur s'agissant de la terre et du foncier. Jean-Michel Sourisseau.
Oui, le rééquilibrage, il est sur foncier, en tout cas entre terres privées et terres coutumières, on est à peu près maintenant sur des surfaces équivalentes, alors qu'on avait à peu près la moitié. En fait, on a bien rattrapé cet équilibre-là. Et c'est difficile de dire si les inégalités, c'est surtout il y a eu beaucoup d'attributions collectives en fait. C'est pas des Kanaks individuellement qui ont récupéré la terre, mais beaucoup à travers donc des groupements de droits local particulier, des agrandissements de réserves, etc. Les terres coutumières, en fait, n'ont pas d'appropriation privée individuelle. Voilà. Donc, du coup, on sait
donc, ça
de dire qu'il y a eu des
monde,
inégalités.
Donc, ça profite plutôt à tout le monde.
Il y a des clans qui ont été... Par contre, il y a des clans qui ont été bien plus privilégiés que d'autres parce qu'ils ont su bien se positionner, parce que les terres étaient plus faciles, etc. En gros, maintenant, on pense qu'on a rétrocédé la plupart des terres qui étaient à peu près facile à rétrocéder. Il reste dans le stock de la DRAF, il reste quelques terres qui sont encore très problématiques. Et voilà, la difficulté maintenant, elle est plus dans comment est-ce qu'on met en valeur ces terres qui ont été rétrocédées avec les contraintes qui sont liées à la propriété coutumière, donc cette difficulté d'emprunter et d'avoir du développement économique dessus. Mais là, on est en train de progresser assez fortement. Il y a beaucoup de montages assez intéressants de prise de participation publique et privée pour essayer de monter des projets, d'avoir des développements économiques. On construit maintenant des lotissements qu'on met à la vocation intercoutumière. En bordure des villes, des petits bourgs, il y a des projets qui se mettent de ce côté-là. C'est pas tant sur le développement agricole, on reste un peu frustré sur le développement de ces terres-là. En revanche, sur tout ce qui est de profiter d'implantations de sociétés de services ou autres, maintenant sur terre coutumière, il y a une dynamique qui est très très forte là-dessus et on trouve des montages assez intéressants pour le faire. La province nord est assez en pointe là-dessus, mais aussi en province sud, sur des communes comme Païta, par exemple, sont très en pointe sur cette question-là.
Jean-Michel Sourisseau, si on élargit au fond à la question économique dans son ensemble et à la question du développement, l'un des objectifs d'ailleurs de votre livre, c'était savoir dans quelle mesure les accords de Matignon avaient modifié ou non la trajectoire de développement de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là? Est-ce que le modèle de développement a effectivement changé depuis 2-3 décennies?
Alors oui et non, c'est toujours pareil.
Désolé d'avoir
de réponse plus tranchée que ça. Non, ce qui est sûr, c'est quand même qu'on est passé, on a eu des régimes en fait de croissance et de développement qui ont été assez marqués et assez typiques dans la trajectoire qu'on a eue. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a eu une croissance économique qui a été très forte. La Nouvelle-Calédonie a eu en moyenne 3-4 points de croissance annuelle, de ce qui est très très important. Et là, il y a eu quand même le développement, la croissance économique a vraiment profité à la Nouvelle-Calédonie dans cette période-là. Ceci dit, on est passé donc du coup d'un régime qui était extrêmement, que Jean Fraisse, un économiste des années 90, avec son bouquin, qualifié d'économie assistée, où la Nouvelle-Calédonie était extrêmement dépendante des transferts publics. Ça reste vrai, mais beaucoup moins. La Nouvelle-Calédonie, c'est surtout, il y a eu un rattrapage économique assez fort, avec dans la première partie des mandatures de l'accord de Matignon, un rattrapage économique qui s'est fait à grand coup de renfort de d'aide publique, de la France certes, mais qui a permis de rééquilibrer et de développer un certain tertiaire qui a pu se mettre en place. Et voilà. Ensuite, on a eu une grande phase qui a été très favorable à la Nouvelle-Calédonie, qui est une phase que nous on appelait d'industrialisation en fait, où on a vu des grandes réalisations se mettre en place, des grands travaux, des usines métallurgiques d'une part, ce qui est quand même le poumon du développement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi un centre hospitalier, la réfection de l'aéroport, etc. Beaucoup d'infrastructures qui ont donné aussi et qui ont changé un peu la donne et qui ont fait que l'économie s'est un peu transformée. Et maintenant on arrive dans une phase, on est au début d'une troisième phase, et là il y a des enjeux assez forts et des choix stratégiques de politique économique à faire maintenant, où on a un appareil industriel qui s'est largement développé. La Nouvelle-Calédonie a maintenant les capacités de transformer la plupart de son minerai dans des usines, soit sur son sol, soit à l'extérieur dans des usines offshore, mais contrôlé par des capitaux calédoniens, donc va passer d'une industrie minière en fait à une industrie métallurgique, et avec du coup une dépendance beaucoup moins forte par rapport à l'extérieur, mais qui n'est pas encore tout à fait arrivée maintenant.
Alors, donc,
pour résumer, on a effectivement un grand développement économique ces dernières années qui est réel, avec un rattrapage en termes d'infrastructures et de développement social qui est évident.
Alors pour poursuivre justement peut-être sur le volet industriel, Alban Bensa, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est extrêmement riche, notamment de nickel, je crois que c'est 9 ou 10% des réserves mondiales, c'est absolument colossal. D'ailleurs la société, le nickel, la SLN, c'est le premier employeur privé du territoire, donc c'est évidemment quelque chose qui pèse très lourd. Et il se trouve que dans les années 2010, il y a des nouvelles usines qui sont rentrées en production, notamment celle du Nord, Koniambo Nickel. C'est une usine qui a ce site particulier, qu'elle est détenue à 51% par la société minière des indépendantistes de la province Nord. C'est donc une configuration qui a d'ailleurs été permis par les accords dits de Bercy, qui étaient préalables à l'accord de Nouméa. C'est intéressant de regarder comment a fonctionné cette usine, parce que ça peut illustrer, ça peut en tout cas nous donner des éléments sur l'efficacité du camp indépendantiste dans la gestion des affaires industrielles et dans la gestion de leurs propres ressources. Alban Bensa, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon aujourd'hui sur ce point?
Oui, les indépendantistes en province nord ont fait preuve d'un très grand pragmatisme. Ils sont partis de la constatation que, auparavant, avant la création de l'usine du Nord, le nickel était retraité en France. Il était semi-raffiné, puis il était envoyé en France. Et l'idée, ça a été de faire une usine de retraitement du nickel de façon à vendre du métal, et plus du nickel, vendre du métal pur, sur les marchés environnants, Corée, Japon, Nouvelle-Zélande principalement. Et ça, ça a été favorisé par par Bercy. Du coup, les indépendantistes se sont trouvés à la pointe du développement technologique en cherchant l'appui de multinationales comme la Falcon Bridge, etc., pour construire cette usine de retraitement du nickel dans le prolongement du massif du Koniambo. Donc on exploite le massif et le nickel du massif est retraité dans l'usine de Vavuto, et avec comme vous l'avez dit, une participation forte des promoteurs du projet des indépendantistes, puisque
majoritaire, ceux qui décident.
Ils sont majoritaires. Et ça a permis une retombée importante à tous les niveaux, et la création, la mise en place progressivement d'un pôle urbain Vaux-Connet-Pointe-Boute qui progresse, qui avance, etc. Alors du coup, réagissant à cette nouvelle situation, la province sud a lancé le projet Gouraud, là, avec Vallée Gouraud, et avec un autre système de purification du nickel plus polluant, etc. Mais du coup, la Calédonie s'est trouvée en concurrence. Mais une fois de plus, comme il l'avait été sur le plan politique dès 1958 et puis ensuite en 84, les indépendantistes se sont projetés dans l'avenir et ont proposé d'autres solutions que les solutions routinières de dépendance de la Nouvelle-Calédonie par rapport à l'État français qui dominait et le grand conflit, il est là. C'est-à-dire, ou bien la Calédonie petit à petit accède à une plus grande autonomie, voire à une indépendance, transfert des compétences, gestion de ses propres ressources avec gain des dividendes immédiats, ou bien elle continue à se raccrocher à la France et en essayant d'obtenir de la France le maximum d'aide, donc d'accentuer la dépendance. Voilà. Et donc l'indépendance, c'est une lutte entre l'indépendance au sens large, c'est-à-dire autonomie de gestion, d'initiative, récolter les fruits de son travail, etc., ou bien la dépendance par rapport à l'État français. Et là, voilà, les deux projets politiques sont sur la table.
C'est Edgar Pisani qui avait eu cette expression d'indépendance associative.
Oui,
je crois.
Indépendance association. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'indépendance en partenariat.
L'expression, en tout cas, était restée.
Oui.
Allez, on va prendre la direction de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'est évidemment pas la seule île mélanésienne concernée par les velléités indépendantistes. Du côté de la Papouasie occidentale, la partie de la Nouvelle-Guinée que l'Indonésie s'est accaparée en 1969, où les Papous estiment être traités comme des citoyens de seconde zone par Jakarta, eh bien eux aussi, ils veulent un référendum dans l'espoir de gagner leur indépendance. Cette revendication, elle est revenue sur le devant de la scène l'été dernier, lors de violentes émeutes qui ont secoué le territoire. Mais elles sont loin de s'être apaisées, puisque fin septembre, 33 personnes ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements. Alors quels sont les moteurs de cette colère? Est-ce qu'on peut enfin espérer un règlement politique? On va aborder cette question avec Delphine Alès, qui est avec nous par téléphone, qui est professeure de sciences politiques à l'INALCO, qui est chercheure au CAS, le centre Asie du Sud-Est de l'HSS. On avait, Delphine Alès, eu l'occasion d'évoquer cette question, cette crise en Nouvelle-Guinée occidentale au sortir d'un été particulièrement violent. Après des mois de tension, de nombreuses manifestations avaient éclaté pour demander un nouveau scrutin d'autodétermination. On avait vu que ce président indonésien, Joko Widodo, n'était pas franchement prêt à envisager ce scrutin. Est-ce que la situation a évolué depuis? Est-ce qu'il y a des discussions qui laissent penser qu'une issue politique est envisageable à moyen terme, Delphine Alès?
Sur le plan de l'issue politique, c'est absolument pas envisagé par les autorités indonésiennes. Donc il y a effectivement un peu plus d'attention portée à la situation en Papouasie. Mais on reste dans le discours des autorités indonésiennes sur des solutions qui sont en termes exclusivement économiques. Un petit peu en termes de reconnaissance, mais si on se penche sur les propositions qui ont été faites par le président Joko Widodo à la suite des émeutes qui avaient commencé au mois d'août dernier, ce sont des propositions qui sont exclusivement en termes d'accélération de la construction des infrastructures, d'apport de la 4G dans la province, de construction même d'un nouveau palais présidentiel, avec cette idée que ça permettra de mieux intégrer la province au reste de l'archipel, mais toujours pas l'idée de solution politique ou d'accentuer l'indépendance de la province.
D'accord pour faire des investissements supplémentaires, mais pour le reste, pas de nouveaux droits et évidemment, j'imagine, impossible d'envisager la question d'une nouvelle consultation.
Non, absolument pas. Et ça, c'est vraiment une question qui fait consensus sur la scène politique indonésienne. Donc, ça ne fait pas partie des thématiques qui sont négociées, puisqu'elles ne sont tout simplement pas défendues, ne serait-ce qu'au Parlement indonésien. Aucun parti politique ne prône une révision de cette situation.
Et pour cause, on considère sur la scène politique indonésienne qu'en réalité, cette question de la consultation a été tranchée. Rappelons qu'il y a 50 ans, en 1969, il y a eu un référendum d'autodétermination. Les Papous se sont prononcés. C'est donc réglé.
Oui, alors
c'est ce que disent les responsables indonésiens. Du côté des Papous, la musique est différente.
C'est ça. Et la difficulté, c'est que c'est un peu ce que disent aussi les Nations Unies. Il y a eu le 2 août 1969 une consultation, alors très fortement encadrée cette consultation, puisque ont été consultés 1026 électeurs et électrices sélectionnés par l'armée indonésienne qui administrait à cette époque la province. Donc c'était une consultation à main levée qui évidemment s'est soldée par l'unanimité en faveur de l'intégration de la Papouasie à l'Indonésie. Mais cette consultation, qui s'appelait l'acte de libre choix, mais que les militants papous appellent l'acte de non-choix, a été validée par une résolution des Nations Unies, la résolution 2504 du 19 novembre 1969, qui intègre donc officiellement la province au reste de l'Indonésie.
Et ça, c'est définitif ou est-ce qu'on peut imaginer que les Nations Unies changent de position? Benny Wenda, qui est le porte-parole du mouvement uni pour la libération de la Papouasie occidentale, qui est exilé au Royaume-Uni, il a appelé l'ONU à la rescousse. Est-ce que l'arène onusienne pourrait finalement être le salut de la cause papoue?
Alors on pourrait imaginer une évolution politique. La cause papou, elle est effectivement de plus en plus visible sur la scène internationale parce qu'il y a une organisation de cette cause, une politisation et puis une coordination avec d'autres mouvements pour l'autonomie ou pour l'indépendance d'autres provinces ou populations du monde. Mais on peut difficilement imaginer une évolution en droit. On peut imaginer si la situation évoluait des positions ou de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour le moment, ça n'est pas le cas et ce n'est pas le cas parce que d'autres États importants, et notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, sont dans cette situation d'avoir des provinces qui revendiquent une indépendance ou une autonomie. Et donc, il y a un relatif consensus pour conserver le statu quo.
Delphine Alès, quittons l'arène onusienne et revenons sur le terrain. Les dernières violences que j'ai évoquées tout à l'heure ont opposé des Papous à des Indonésiens venus s'installer sur l'île. C'est une nouveauté, cette violence à l'égard des nouveaux arrivants?
Alors, effectivement, avec ce degré de violence, c'est une nouveauté. En revanche, il n'est pas nouveau qu'il y a des tensions. Il faut savoir que la Papouasie, c'est une région dont la population a considérablement augmenté depuis une vingtaine d'années en raison du processus de migration des îles intérieures de l'Indonésie et notamment de Java vers la province pour contribuer à son développement économique. Et ça crée énormément de frustration sur place parce que, d'une part, la population autochtone est devenue minoritaire sur cette île. Et d'autre part, une partie de cette population a le sentiment de ne pas bénéficier du développement économique et des infrastructures, puisque en bénéficient principalement ces migrants intérieurs venus d'autres provinces.
C'est justifié ça? Parce qu'effectivement, ce qu'on entend beaucoup dans le discours des Papous de Nouvelle-Guinée occidentale, c'est l'idée qu'ils seraient des citoyens de seconde zone et qu'ils ne jouiraient pas des mêmes droits, des mêmes avantages que les autres citoyens indonésiens. C'est le cas sur le terrain? C'est justifié?
Alors effectivement, c'est une province qui est aujourd'hui la plus pauvre d'Indonésie. C'est celle où le niveau éducatif est le moins avancé dans tout l'archipel. Et c'est vrai qu'il y a une différence sur le terrain entre le traitement qui est accordé par les autorités locales aux populations autochtones et celui qui est réservé aux migrants, qui correspond plus aux standards de la population indonésienne. Donc il y a bien une différence sur le terrain, mais je pense qu'il ne faut pas limiter la rancœur à cet enjeu-là. Il y a aussi un problème de reconnaissance et une revendication pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité qui n'est pas prise en considération par les autorités indonésiennes, puisque la tendance en Indonésie, c'est d'aborder la Papouasie, et ça a toujours été le cas, comme une région dont le principal problème est le sous-développement, et pour reprendre les termes qui sont ceux employés couramment sur la scène politique indonésienne, l'arriération de cette province. Évidemment, j'emploie ce terme avec des guillemets, avec prudence, mais on se refuse en Indonésie à aborder l'enjeu sous son volet politique. Et donc, on a cette contradiction vraiment entre la volonté du gouvernement indonésien de dépolitiser la question, de la traiter uniquement sous l'angle du développement et du rattrapage du reste de l'archipel, et la volonté des militants de la cause papou de voir leurs droits reconnus. Et c'est ça qu'ils revendiquent en premier.
Delphine Alès, je disais tout à l'heure que les dernières violences ont opposé des papous à des Indonésiens qui venaient de s'installer sur l'île. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu une dimension un peu anti-migrante dans l'indépendantisme papou, c'est pas complètement nouveau, on le comprend, hein. C'est-à-dire que ils ont le sentiment qu'on leur prend leur territoire, donc ils le défendent, et ils le défendent évidemment vis-à-vis des nouveaux arrivants, mais il y a aussi dans cette confrontation une dimension confessionnelle. On a des papous qui sont majoritairement chrétiens, des migrants indonésiens qui sont très majoritairement des musulmans. Jusqu'où ce critère confessionnel peut être convoqué pour expliquer ces violences?
Alors, je pense qu'il n'explique pas les violences parce que les tensions existaient bien avant que la dimension confessionnelle apparaisse comme un aspect important de ce conflit. C'est plutôt au cours des dernières années que la dimension religieuse a pris une place de plus en plus importante dans la politique indonésienne et qu'on a eu tendance à plaquer ce cadre d'analyse sur les tensions. Mais il faudrait surtout pas percevoir ce conflit à travers un prisme qui serait celui de l'opposition entre des Indonésiens venus d'autres îles musulmans. D'ailleurs, c'est pas le cas de tous les Indonésiens migrants vers la Papouasie. Certains sont aussi chrétiens et tous les Papous ne sont pas chrétiens. Une petite minorité sont musulmans, d'autres ont préservé des traditions religieuses autochtones qui précédaient l'arrivée du christianisme dans la région. Donc le prisme religieux serait trop simple pour expliquer la situation.
J'entends Delphine Alès cette idée que c'est une fausse grille de lecture. Il n'empêche que, vous nous le disiez tout à l'heure, on est dans une situation où on n'envisage pas de règlement politique. En tout cas, l'issue politique est pour l'instant impossible à trouver. Il pourrait y avoir malheureusement une utilisation, une instrumentalisation précisément de cette dimension confessionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut craindre? Et de façon plus générale, compte tenu précisément du fait qu'il n'y a pas de solution politique, est-ce qu'il faut craindre une généralisation des violences en Nouvelle-Guinée occidentale?
Alors, une prolongation des violences est vraiment probable, hein, en l'absence de règlement politique. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs que cette prolongation, elle se fait non seulement en Indonésie, mais aussi par l'extérieur, avec la coordination de nombreux mouvements autonomistes sur le plan international. Et donc, ça contribue à donner un souffle à ce mouvement. Pour l'anecdote, vous parliez dans une autre émission de l'indépendantisme catalan. Il y a eu des messages de soutien mutuel entre militants papous et militants indépendantistes catalans. Donc ça contribue à inscrire ce mouvement dans la durée tant qu'une solution politique n'est pas trouvée. Pour revenir à ce qui vous intéressait du facteur religieux, je pense que ce n'est pas celui qui est le plus à craindre dans le contexte de ce conflit, parce que paradoxalement, c'est peut-être bien la seule dimension politique qui est véritablement abordée par les autorités indonésiennes. C'est toujours pas une reconnaissance véritablement des revendications papoues, mais je pense que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudrait analyser les causes d'une prolongation éventuelle du conflit.
Merci beaucoup à Delphine Alès qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui est professeure de sciences politiques à l'INALCO et chercheure au Centre Asie du Sud-Est de l'EHESS. Un grand merci à vous, Alban Bensa, de nous avoir éclairé sur cette question calédonienne. Difficile question, on en reparlera évidemment sans doute, puisque bien sûr ce référendum aura lieu en septembre 2020, donc on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, et un grand merci également à Jean-Michel Sourisseau qui est avec nous en duplex de Montpellier, qui est économiste chercheur au CIRAD et qui a écrit notamment La Nouvelle-Calédonie face à son destin, quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté, c'était chez Cartala. C'est sur ce morceau Kanaké qu'on se quitte. Vous pourrez évidemment retrouver la référence de ce morceau sur la page de Culture Monde. Et je remercie encore une fois les auditeurs de Culture Monde qui sont de plus en plus nombreux. On a eu cette confirmation encore ce matin par les chiffres Médiamétrie. Ça fait évidemment toujours plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie infiniment. 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Qui lui aussi est de plus en plus écouté. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Tout le monde s'inquiète de la nouvelle course aux armements nucléaires et surtout du risque qu'elle finisse par être utilisée par de pour de bon, pardon, dans le cadre d'un conflit entre États, Brice.
Et le dernier en date à s'inquiéter, c'est Richard Haass, ancien membre du cabinet de George W. Bush et actuel président du Council on Foreign Relations. Comme les autres observateurs, il déplore que les accords de limitation des missiles tant à longue qu'à moyenne portée, signés autrefois par les Soviétiques et les Américains dans les années 80, tombe en désuétude sans être remplacé. Plus intéressant encore, ce républicain désapprouve le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Car l'Iran, dit-il, a réagi en relançant son programme. Téhéran le fait peut-être pour persuader Américains et Européens de renoncer de leur côté à leurs sanctions économiques, mais il s'approche ainsi dangereusement du seuil à partir duquel les Israéliens pourraient considérer que leur propre sécurité est menacé de manière inacceptable par un État qui lui dénie le droit à l'existence. La tentation de la première frappe deviendrait alors très forte. Quoi qu'il en soit, les tentatives répétées de l'Iran pour se doter d'armes nucléaires ont inquiété d'autres États de la région, comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui s'en doteraient rapidement si l'Iran sortait du bois. Mais la Turquie, de son côté, a fait savoir qu'elle y pense aussi. Plus elle s'éloigne de l'Alliance Atlantique, plus elle est tentée d'assurer sa sécurité par ses propres moyens. L'arsenal nucléaire de la Corée du Nord est certes rudimentaire, mais il existe. Et ce pays développe actuellement un programme de sous-marins lanceurs de missiles balistiques. Imaginer que Kim Jong-un pourrait renoncer à ses armes comme l'a cru Donald Trump est une illusion. Comme dit Haass, le précédent ukrainien a été médité. Ce pays a renoncé aux nombreux systèmes d'armes atomiques déployés sur son sol autrefois par l'armée rouge en échange d'une garantie de son intégrité territoriale par les États-Unis et la Russie. Et cette dernière, comme on sait, lui a arraché la Crimée et elle occupe une partie de son territoire oriental sans que les États-Unis n'aient pu l'empêcher. La leçon a été méditée à travers le monde. Qui détient la bombe peut dissuader un voisin agressif. Mais dans les années à venir, la montée en puissance atomique de la Corée du Nord risque de convaincre ses voisins, en particulier sud-coréens et japonais, qui doutent de plus en plus de la garantie américaine, de s'équiper à leur tour d'armes équivalentes.
Sans oublier, Brice, la relation conflictuelle entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, rappelons-le, et la disproportion des forces conventionnelles respectives de ces deux États.
Les risques d'un conflit militaire classique qu'un conflit militaire classique s'envenime dans une montée aux extrêmes sont en effet là-bas très sérieux. La dissuasion mutuelle, qui a retenu Américains et Soviétiques, ne joue pas. L'affaiblissement des alliances provoque un besoin inédit de sécurité. La disparition des générations qui ont connu le traumatisme d'Hiroshima et puis la facilité d'acquisition de systèmes d'armes autrefois réservés aux pays les plus riches concourt à la dissémination des armes nucléaires. Actuellement, écrit Eric Brewer dans Foreign Affairs, seuls 9 pays au monde possèdent des bombes atomiques. Les États-Unis ont longtemps veillé à empêcher leur prolifération en menaçant de représailles politiques ou économiques ceux qui étaient tentés de s'en équiper. Ils sont ainsi parvenus autrefois à dissuader l'Irak, la Libye et un temps même la Corée du Nord de devenir des puissances nucléaires. Mais ils garantissaient aussi un certain niveau de sécurité internationale, un ordre, une Pax Americana dont tous les autres étaient censés bénéficier. La non-prolifération a largement dépendu du leadership américain, écrit Brewer. À présent qu'ils tendent à s'en abstraire au nom du America First de Trump, qu'en est-il ? Eh bien, les États-Unis perdent chaque jour un peu plus leur capacité à punir les contrevenants à l'ordre qu'ils avaient autrefois imposé. Pour une raison simple, ils ne contrôlent plus comme autrefois le système financier international. Leurs alliés eux-mêmes cherchent à contourner les sanctions, notamment contre l'Iran. Trump ne voit pas les alliances nouées par les États-Unis comme des garanties de sécurité proposées en échange de l'acceptation de règles telles que la renonciation à l'arme nucléaire. Non, pour lui, c'est un marché dans lequel les protégés doivent payer pour leur sécurité. On n'a plus affaire à un shérif, mais à une compagnie de sécurité privée. Et la confiance ne régnant pas, certains préfèrent se protéger tout seuls. En outre, ajoute Eric Brewer, la multiplication à travers le monde de régimes autoritaires constitue un autre facteur de dissémination, parce que les autocrates n'ont pas à tenir compte de leurs opinions publiques. On doit donc s'attendre, dans les années à venir, à une dangereuse dissémination des armes nucléaires et le risque de les voir utilisées va augmenter considérablement.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.